Alors bonjour à tous, à tous ceux que j'ai pas encore pu saluer ce matin. On aura encore le repas en commun après, donc on peut prendre du temps ensemble pour discuter, faire connaissance. On est en train de faire une série à travers l'évangile selon Jean, et on avance. Et ce matin, c'est peut-être un des messages où ça va être particulièrement frustrant pour quelqu'un comme moi, parce que on va faire 47 versets en un seul message. C'est obligatoire pour pouvoir avancer à une vitesse qui nous permet de finir l'évangile de Jean avant 2050. Donc on essaye d'avancer en gros morceaux, des morceaux logiques, mais ça veut dire qu'on ne va pas tout couvrir. On ne va pas... Ah, ça ne va pas le faire, ça. Ça va le faire, je pense. Vas-y, si tu veux bien.
On va skipper comme ça? Non, c'est dans l'autre sens. Comme ça, voilà.
On découvre la technique encore, hein. Alors, je vais recommencer. Bonjour à tous. On fait une série en ce moment à travers l'évangile selon Jean et on essaie d'avancer à grande vitesse pour terminer la première moitié de l'évangile selon Jean d'ici un mois et demi. Et puis ensuite, on marquera une pause et on reviendra à la rentrée et on terminera l'évangile selon Jean. Et donc, on a un gros, gros texte. On est dans le chapitre 5 de Jean et on va quand même tout lire parce que c'est la parole de Dieu, c'est la partie la plus importante. Et si ce matin, on était déjà sur le thème de la présence de Dieu, ici, on va aller plus loin. On va voir que la présence de Jésus doit parfois nous choquer. La présence de Jésus doit nous choquer. Si elle ne te choque pas parfois, s'il n'y a pas un choc culturel en la présence de Jésus, c'est probablement que tu n'es pas assez attentif, que je ne suis pas assez attentif. Parce que Jésus est littéralement dans notre monde. Et si on devait avoir un martien, je sais que l'image est peut-être nulle, mais si on devait avoir un martien chez nous pour manger à midi, on s'attendrait à ce qu'il y ait des moments de choc culturel entre la culture martienne et la culture terrestre. Quand on rentre dans la présence de Jésus, dans ce texte en particulier, mais dans beaucoup de textes, c'est normal que Jésus dise des choses qui soient choquantes pour des personnes terrestres. Donc on va prendre tout l'ensemble du texte, mais je vais vous donner quand même une petite trame pour qu'on voit le fil conducteur. Le fil conducteur, c'est que Jésus choque, il va s'expliquer, et puis ensuite il va appeler des témoins pour justifier qu'il a le droit de choquer, si vous voulez. Et tout le fil rouge tout au long, je pense que c'est vraiment la notion de Jésus a toute autorité même pour juger les autres êtres humains. Donc lisons le texte ensemble. C'est la page 690 dans les Bibles blanches. Donc, page 690, Jean, chapitre 5, verset 1. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Je vais sauter, verset 5. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, et il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus. » De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Moi aussi, je suis à l'œuvre. » Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il lui-même fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. C'est un autre qui témoigne en ma faveur et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour ma part, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis ça afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres mêmes que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu son visage, et la parole n'habite pas en vous puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas ma gloire des hommes, mais je vous connais, vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, celui en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi. Puisqu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ? Jusque-là, la parole de Dieu. Ce texte est hyper riche, bien évidemment. Et si quelqu'un nous demandait comment est-ce que tu peux croire en un seul Dieu, en trois personnes, la Trinité, qu'on a chanté et adoré ce matin, ce serait un excellent texte. Mais ce n'est pas la seule chose qui se passe dans le texte, donc on ne va pas passer beaucoup de temps dessus. Il y aurait plein de choses à regarder, mais j'ai l'impression que l'idée centrale, ce que Dieu voudrait nous dire à travers ce texte, pourquoi ce texte est là, c'est pour nous faire réaliser que seul un Dieu qui choque est un Dieu, seul un Jésus qui choque est un Jésus qui peut sauver. On a besoin que Jésus soit choquant pour qu'il puisse aussi avoir la puissance de nous sauver. Donc regardons en posant des questions. On va commencer à se poser la question la plus simple peut-être. En quoi Jésus est-il choquant dans ce texte et en quoi est-il choquant pour nous ce matin dans notre culture ? En quoi Jésus est-il choquant ? Puis deuxièmement, on va regarder pourquoi est-ce que c'est normal ? Et on pourrait même dire pourquoi est-ce que c'est bien que Jésus soit choquant ? Et puis on va terminer avec une question peut-être plus compliquée, plus complexe et aussi plus personnelle. Comment bien réagir au Jésus choquant de Jean 5 ? Comment bien réagir ? Donc beaucoup de choses à faire, on avance et que Dieu nous aide à être clair et à être attentif. En quoi Jésus est-il choquant dans ce texte ? Alors, il y a les chocs évidents pour les pharisiens. On peut commencer peut-être avec ça, mais chaque culture réagit différemment à un événement. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà mangé avec une culture où c'est bien de manger avec de mâcher avec la bouche ouverte. Je ne sais pas. Ça existe. Il y a aussi des cultures où il faut rôter après le repas. Ça existe. Et il y a des chocs comme ça. Et si vous avez déjà eu des interactions avec d'autres cultures, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec le temps, on découvre des choses qui nous choquent. Eux, ils découvrent des choses qui nous choquent en nous. Et puis ensuite, souvent, on découvre des choses dans la culture qu'on visite. On se dit, ouais, ils ont compris quelque chose. Par exemple, en culture asiatique, on trouve quand même très beau leur respect pour la famille et leur façon de s'occuper de leurs parents et de leurs grands-parents, quelque chose qu'en France, en culture individualiste, on sait tous qu'il y a quand même un problème au fond. Vous voyez, donc il y a plein d'exemples comme ça quand on visite notre culture. Ici, on va voir la culture juive, et puis on va voir ce qui est choquant dans les propos de Jésus pour nous. Alors la culture juive, c'est deux choses qui choquent les responsables juifs. Ils sont dans le texte, c'est hyper clair, hein, parce que le narrateur nous le dit. Verset 16, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il avait fait ça le jour du sabbat. Donc Jésus a désobéi une loi de la culture juive, pas dans la Bible, hein, mais les Juifs avaient rajouté 39 activités qu'ils n'avaient pas le droit de faire un jour de sabbat, un samedi, et Jésus n'avait pas le droit de guérir et on n'avait pas le droit de porter son lit un jour de sabbat. Donc premier choc pour la culture, Jésus n'en a rien à faire, il fait la guérison quand même. Deuxième choc pour la culture, bien plus grande, un bien plus grand scandale, c'est la deuxième mention. Cependant, verset 17, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » Choc énorme dans la culture, il prétend être le fils de Dieu, et le fils de Dieu, tout le monde le sait, il est égal à Dieu, c'est un blasphème pour la culture juive. Et je ne sais pas pour nous, en lisant le texte, pour toi, en lisant le texte, qu'est-ce qui te choque ? Moi, je peux te donner quelques pistes, si tu as envie d'être choqué. Il ne guérit pas tout le monde. Dans un monde où tout le monde est gentil et tout le monde mérite une chance, pourquoi il donne une chance à une seule personne ? Je ne vais pas donner de réponse par contre. Deuxième chose choquante dans le texte, plus grave encore, Jésus s'autorise à se prononcer sur la moralité d'un homme. Alors qu'en France, ce que nos présidents font, peut-être ça commence à changer avec les réseaux sociaux où on crée des faux scandales, mais ce que Mitterrand faisait avec ses maîtresses, c'était affaire privée. Ça ne change pas sa façon de diriger le pays, on nous disait. Jésus, lui, n'a aucune crainte de se prononcer sur la moralité d'un homme. Et il dit à cet homme qu'il a guéri, il revient le voir dans le temple, verset 14, et il dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Il s'autorise de lui dire, arrête le péché. Arrête. Imaginez que quelqu'un vienne vous dire ça. Imaginez juste d'être en train d'attendre votre bus, que quelqu'un vienne vous dire, tu devrais tout de suite aller aux urgences. Je sais que tu es en retard pour ton rendez-vous, mais tu devrais tout de suite aller aux urgences. Tu vas mourir. Déjà ça nous choquerait. Si en plus, il commence à nous parler de notre vie morale, de nos péchés, Mais on serait outré. De quoi je me mêle? Juste dire à quelqu'un, là c'est pas dans les notes, juste dire à quelqu'un qui pisse contre son mur de maison ce matin, véridique, d'arrêter, on hésite, est-ce que je lui dis ou pas? Se prononcer sur les agissements des autres, on n'ose pas le faire dans notre culture. Et on voit Jésus qui le faisait constamment. Il s'autorise de dire « ne pêche plus ». Et encore plus fort, et ça peut-être ça te choque pas parce qu'on le voit même pas, on se rend même pas compte de ce qu'il est en train de dire. Mais il dit « de crainte qu'il ne t'arrive quelque chose de pire ». Qui peut... À quoi pense-t-il? Un juif aurait compris. Un français, je sais pas. Mais un juif aurait compris. Au jugement dernier, il va t'arriver bien pire que 38 ans de paralysie. Au jugement dernier, 38 ans de paralysie, ça va sembler comme avoir été des vacances. C'est rien. Ce sera une partie de plaisir, 38 ans de paralysie, face au jugement de Dieu contre tes péchés. Et un Français moyen, nous peut-être, on regarde ça, mais qui peut dire des choses pareilles? Et donc si Jésus ne te choque pas, peut-être que tu n'as pas été assez attentif jusqu'à maintenant. Ce qui est choquant, c'est vraiment de ne pas trouver Jésus choquant. Alors, voilà des aspects choquants dans juste ce passage de Jean. Et bien sûr, le choc pour les Juifs du blasphème devrait aussi nous choquer. On va se concentrer beaucoup là-dessus, parce que si Jésus est vraiment qui il dit être, ça change tout pour nous. On entre dans la présence de Dieu à chaque fois qu'on entre dans la présence de Jésus. Alors pourquoi est-ce que c'est normal? Deuxième chose qu'on voulait se demander. Pourquoi c'est normal que Jésus nous choque? La Bible nous dit que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Dieu nous a créés. Il nous a donné la valeur parce qu'il voulait faire de nous des chefs-d'œuvre. Et on s'est rebellé contre lui. On a décidé de vivre sans lui. Et depuis ce jour, on est comme un puzzle, mélangé avec un autre puzzle, si vous voulez. On n'arrive plus à recoller les morceaux. On trouve des morceaux qui sont beaux et avec des morceaux qui sont dégueulasses. Et on ne sait pas comment les remettre ensemble. Parce qu'on est tout mélangé à l'intérieur de nous, entre péché et à la fois image de Dieu. Entre gloire et décadence. Et ici, on entre dans la présence de notre Créateur. Jésus est notre Créateur, lui qui nous connaît si bien. Est-ce que ce n'est pas normal que Jésus nous choque? Il y aura des moments où on entre dans sa présence et il met le doigt sur les choses belles dans notre vie, les choses qu'il voulait dans notre vie, les choses qui vont nous rendre, qui vont donner le bonheur. Et des moments où il va mettre le doigt sur notre moralité, sur nos péchés, notre indépendance vis-à-vis de Dieu, notre égoïsme, notre orgueil. C'est normal que Jésus ne puisse pas simplement féliciter tout ce qu'on fait, et ni condamner tout ce qu'on fait. On est créé à l'image de Jésus, on est créé par Jésus, et on est maintenant brisé à cause de notre rébellion, notre indépendance. Et donc on entre dans la présence de Jésus qui se proclame Dieu ici. S'il y a un texte dans la Bible qui le dit, qui le redit, qui le redit, Jésus se fait effectivement égal à Dieu. Et je suis le premier à dire que c'est un des textes qui décide tout pour toi, pour moi. L'auteur des Chroniques de Narnia, C.S. Lewis, était aussi un grand défenseur de la foi chrétienne. Il s'est converti à la fac et tout le reste de sa vie, il était juste fabuleux dans sa façon de nous surprendre avec ses raisonnements pour nous montrer que non, la seule possibilité, c'est que le christianisme est vrai. Et lui, il a proposé une solution très simple par rapport à la personne de Jésus. Avec un homme comme ça, dans chapitre 5 de Jean, qui affirme des choses aussi énormes à propos de sa personne, il n'y a que trois options. Que tu sois chrétien ou pas, que tu sois croyant ou pas, que tu sois en train de te poser des questions ou pas, il n'y a que trois options. Soit Jésus est un menteur, soit Jésus est un fou, ou soit Jésus est le Fils de Dieu. Soit ce qu'il dit est mensonge, soit ce qu'il dit est folie, soit ce qu'il dit est vérité. Il n'y a que ces trois options. Et en France, on aurait tendance à rajouter une quatrième, qu'il est une légende, ou une cinquième, que c'est un grand homme, un prophète, un homme sage. Mais ces deux options ne sont pas possibles. Les historiens sont d'accord qu'il a existé. Et on ne peut pas dire que c'est un grand homme simplement sans être Dieu, parce que lui-même affirmait être Dieu. Lui-même se disait égal de Dieu. Et on peut faire une liste. Il dit qu'il fait ce qu'il voit faire par son Père. Il dit qu'il fait tout ce que fait le Père. Vous imaginez ? Il fait tout ce que fait le Père. Pas juste, parfois il fait certaines des choses que peut faire le Père. Il fait tout ce que fait le Père. Il faut que je montre ça dans le texte quand même, mais... Verset 19, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Soit il est fou, soit il est menteur, soit il est qui il dit être, et on doit prendre très au sérieux ces paroles choquantes. » Jésus voit tout ce que fait le Père, on voit plus loin. Jésus peut ressusciter comme Dieu le Père le fait. Jésus peut juger avec l'autorité du Père. Il dit, verset 22, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. » Là, ce verset, c'est un scandale aussi. Jésus doit être loué, adoré. Sinon, on n'est pas en train d'adorer Dieu le Père. Le Fils doit être honoré comme on honore le Père. Jésus doit être adoré, Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés et de faire vivre éternellement. Et Jésus, comme le Père, peut-être le plus choquant encore, il a la vie en lui-même. C'est au verset 26. En effet, pour expliquer qu'il peut ressusciter les morts, Jésus dit, en effet, tout comme le Père a la vie en lui-même. Ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et peut-être que ça ne te dit pas grand-chose, ça peut sembler un peu étrange comme verset. Toi, tu n'as pas la vie en toi-même. Tu dépends de Dieu. Dieu a ta vie entre ses mains. Chaque battement de cœur, c'est un choix de Dieu de te le donner. Chaque souffle de tes poumons, c'est un choix de Dieu. Il t'a donné encore la vie, encore un instant. Mais Jésus tient sa propre vie. Il est Dieu. Il tient sa propre vie entre ses mains. Il décide quand il la donne et quand il la reprend. Il est Dieu et seul un Dieu peut faire ça. Alors pourquoi on dit tout ça? Jésus a intérêt d'être choquant pour toi. Sinon, tu n'as pas encore entendu ce que dit ce texte. Bon, j'ai rien changé, les gars. La batterie est morte ? Ok. Alors pourquoi c'est normal que Jésus nous choque ? Pour résumer, si on est face à Jésus, en la présence de Jésus, on va avoir des millions de choses qui vont mal dans notre vie. On va avoir des millions de choses qui ne sont pas en accord avec la volonté de Jésus. Et donc c'est normal. Pas normal dans le sens qu'il faut le tolérer, mais c'est normal qu'on trouve Jésus dérangeant par moments, et souvent même. Et peut-être deux exemples vont aider. Je pense surtout là peut-être... Ça peut sembler un peu abstrait, mais donc dans notre culture, quels sont les endroits où si Jésus devait être là, il serait en train à la fois de souligner le beau dans notre aspect culturel et le mal dans ce qu'on fait. Donc deux exemples. L'amour est une valeur française. Ok, on parle de l'amour, du besoin de l'amour, du droit d'aimer, d'être aimé. Jésus encouragerait par exemple nos campagnes pour donner une dignité à la vie des handicapés, pour donner une chance aux handicapés. tout ce qui est projet pour que les personnes seules soient entourées, par exemple les ados qui viennent et qui, les étudiants qui viennent vivre avec des personnes seules, pour que tout d'un coup ils puissent s'entraider, des choses comme ça. Jésus encouragerait ce genre d'initiative. Mais sous le même label de l'amour, on autorise plein de choses qui sont une horreur. Par exemple, c'est dans notre culture populaire de dire « écoute ton cœur ». Et si ton cœur te dit de quitter ton conjoint et tes enfants pour une autre femme ou un autre homme, il faut que tu sois heureux. Écoute ton cœur. Tu dois aimer. Tu dois aimer. Non ! Jésus dénoncerait l'égoïsme, la haine qu'on masque sous ce faux amour. Pareil. On parle d'égalité, on devrait avoir égalité de chance, égalité de valeur dans notre culture. Jésus serait pour toutes les initiatives, pour lutter contre les discriminations, donner à chacun sa chance. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit, il nous a créés à son image. L'être humain a une valeur infinie. Aujourd'hui, notre culture française le croit sans le dire. Parce qu'on dit que l'être humain a une valeur, a une dignité, il a le droit d'être heureux. Mais on n'a plus la base chrétienne qui disait « parce que Dieu nous a créés à l'image de Dieu ». Donc Jésus encouragerait toutes ces initiatives pour lutter contre les discriminations. Mais en même temps, il faut être cohérent. Et il dénoncerait, sans aucune hésitation, l'avortement, où on décide nous-mêmes d'ôter la vie à des personnes que Dieu a créées à son image. Plus grave encore, et là on est tous d'accord, il serait contre l'avortement sélectif. Depuis ces dernières années, il y a 200 millions de fillettes qui ont été avortées de plus que les garçons, parce qu'elles ont moins de valeur aux yeux de beaucoup de cultures. Elles coûtent plus cher dans beaucoup de cultures. Nous, on est pour, en France, que les femmes aient droit à leur propre sexualité, pour qu'elles puissent être libres. Mais on ne réalise pas que cette liberté, derrière, peut être utilisée pour soumettre les femmes à la volonté d'une culture. Jésus dénoncerait d'à côté le mal et il féliciterait le bien. Et donc dans ta vie, il ferait la même chose. Il fait la même chose dans la mienne. À travers un texte comme ce matin, il l'a fait aussi. Et on va terminer avec ça. Comment bien réagir ? Donc on a vu que ce qui est choquant dans le texte, c'est la guérison le sabbat. Mais plus que ça, c'est que Jésus se dit fils de Dieu, donc égal à Dieu. On a vu que c'est bien que Jésus nous choque et que Jésus soit choquant. Sinon, honnêtement, il ne serait pas Dieu. Si on avait un extraterrestre, comme j'ai dit, si on avait un extraterrestre à la maison pour une semaine et qu'il n'y avait rien d'anormal en lui, soit il était en train de complètement nous copier en tant que petit Français, soit il est en train de nous mentir. Que Jésus soit en train à la fois de parfois affirmer des belles choses dans la culture, mais à la fois en train de nous reprendre sur d'autres éléments, c'est un indice qu'il est effectivement qui il dit être. Il est le Fils de Dieu. Donc comment bien réagir au choc de Jésus ? Il ne faut pas rater que dans ce chapitre, Jésus a ton bien, mon bien, notre bien en vue. Trois versets qui le montrent. Verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus a le désir que tu vives, que tu passes de la mort à la vie. Sous-entendu, actuellement, si tu ne crois pas en Jésus, tu es mort spirituellement. Deuxième verset, verset 34. Pour ma part, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. Jésus n'a pas besoin de témoignage, il est en train de dire. Ce qu'il dit est vrai dans tous les tribunaux du monde, sans témoin. Il est Dieu. Mais pour qu'on soit sauvés, pour qu'on ait encore une raison de croire, il nous parle de Jean le baptiseur. Son but, c'est qu'on soit sauvé, il dit. Et verset 40, il dit « Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Il veut que tu aies la vie, il veut que tu viennes en sa présence, comme on l'a dit tout au long de ce matin. Et donc, qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir avoir la vie? Ultimement, Jésus donne la réponse, et elle est impossible. Elle est impossible. Regardez avec moi ce que Jésus fait, c'est verset 30. Il ne cherche pas à faire sa volonté, mais celle du Père qui l'a envoyé. Ultimement, pour avoir la vie, il faut que tu fasses tout le temps, toujours, la volonté de Dieu. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu fais ça? Lucinelle, tu fais toujours ça? Est-ce que tu fais toujours la volonté de Dieu? Si tu ne fais pas toujours la volonté de Dieu, tu vas aller devant le jugement de Dieu et tu seras perdu éternellement. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu es mort spirituellement. Et donc là, tout d'un coup, on se dit, mais c'est impossible. C'est impossible. L'homme à qui Jésus a dit « Ne pêche plus de crainte qu'il t'arrive quelque chose de pire » aurait, c'était Raphaël Charrier, il y a quelques mois, qui nous avait dit, il aurait dû aller voir Jésus, mais j'arrive pas à arrêter le péché. Comment je vais arrêter de faire le mal? Et donc la solution ultime, on l'a pas. On a tous péché. On a tous fait le mal. On fait tous notre propre volonté et pas celle de Dieu. Et donc solution bis, que Jésus a déjà expliqué dans ce texte. Soit à la fin du monde, tout le monde va ressusciter et va être jugé, soit tu évites le jugement. Et comment est-ce que tu peux éviter le jugement? C'est verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Les versets 29 et 30 sont pas en train de dire que si tu fais le bien, tu vas être sauvé. Ailleurs dans Jean, ceux qui font le bien viennent à la lumière. Ceux qui font le bien viennent et croient en Jésus. On parle pas de faire le bien à 100%. On parle de croire en Jésus. Et c'est la seule façon d'échapper au choc ultime de la colère de Dieu, du jugement de Dieu, c'est de croire en Jésus. Et c'est là l'évangile. C'est ce qu'on célèbre dans de centaines de façons différentes chaque dimanche. On essaye de montrer toutes les facettes de cette bonne nouvelle. C'est que tu es incapable, je suis incapable de faire la volonté de Dieu à 100%. Et même si on pouvait effacer le passé, on n'arrivait pas à commencer aujourd'hui à vivre à 100% selon la volonté de Dieu. Et donc, Jésus est devenu un homme. Lui, le Fils de Dieu, il a vécu la vie parfaite, la vie qu'on aurait dû vivre. Il a accompli la volonté de Dieu à chaque instant de sa vie, sans jamais échouer. Il le dit, il fait tout ce qu'il voit le Père faire. Et il fait toujours la volonté de son Père. Et avec cette vie parfaite, il a été tué comme un vulgaire criminel, comme toi ou comme moi, comme on aurait dû mourir. Pour qu'à la croix, il puisse porter ma vie, la tienne, et la vie de toutes ces créatures pour laver ses péchés, pour que tout d'un coup sa vie parfaite puisse devenir la nôtre, pour que nous puissions être regardés par Dieu et nous voir plus simplement des pécheurs rebelles qui veulent désobéir et l'indépendance. Il voit la vie parfaite de Jésus sur moi. Et si tu crois en Jésus, les paroles de Jésus sont ta source de vie et tu es constamment en train de méditer ces paroles-là, parce que c'est ton sauveur qui est raconté, qui est décrit, alors tu échapperas au jugement et tu es déjà passé de la mort à la vie. On ne peut pas changer, mais Jésus a tout fait pour qu'on puisse quand même être pardonné. Et le changement est désormais possible, mais ce n'est pas le changement qui nous sauve. C'est parce que Jésus nous a sauvés qu'on commence à changer. Donc comment réagir? Il faut commencer par confesser. On va chanter ce chant purifié pour terminer le culte. On doit commencer par confesser qu'on est fondamentalement brisé. Donc si tu l'as jamais fait, si c'est ta première fois, confesse-le, que tu es fondamentalement brisé. Oui, tu as des choses bien, tu as des bons réflexes dans ta vie, mais est-ce que tu fais à 100% la volonté de Dieu ? Non, moi le premier, je confesse ça tous les jours. Et on a besoin donc de le confesser encore ce matin. Et Jésus met le doigt sur un mécanisme de ton péché, et que tu aies 8 ans ou que tu aies 88 ans, le mécanisme est le même. Verset 44, Jésus dit, pourquoi on ne peut pas croire ? Pourquoi peut-être tu es là en train ce matin de te poser des questions, de te dire, ouais, c'est intéressant, oui, c'est vrai que il doit être Dieu ou vraiment un gros fou, mais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à croire ? Verset 44, comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul. Soit ton autorité, mon autorité suprême, absolue, complète et unique, est Dieu. Et ce que Dieu dit, c'est la vérité. Et ce que Dieu dit, c'est ce que je veux faire. Ou alors, tu as d'autres autorités. Et tu places ta confiance, ton autorité, tu la trouves dans d'autres créatures. Que ce soit à l'école, à la cour de récréation où tu vas être bien aimé par certaines personnes, que ce soit au travail où tu aimerais tellement que tel secrétaire ou tel collègue te remarque, que ce soit ton patron que tu voudrais tellement qu'il puisse te féliciter pour ton travail, que ce soit à la maison, dans ce que tu recherches dans ton conjoint, qui est-ce que tu crois fondamentalement ? Est-ce que c'est Dieu qui est Dieu, ou est-ce que c'est les êtres humains qui ont la place de Dieu dans ta vie ? Et autre façon de réagir, en plus de la confession, et on termine avec ça, c'est plonge-toi, plongeons-nous dans ce livre. Tout le reste du chapitre 5, vous aurez remarqué, il y a 5 appels aux témoins, à témoins. Il y a Dieu le Père qui témoigne pour Jésus, il y a Jean-Baptiste qui témoigne, il y a Moïse qui témoigne, il y a les miracles de Jésus qui témoignent, et il y a toutes les Écritures qui témoignent. Là, tu as une clé de lecture pour toute la Bible. Toute la Bible, y compris les livres les plus compliqués, témoignent de notre besoin de Jésus et de la venue de Jésus. Toute la Bible pointe vers Jésus, soit vers l'avenir, soit vers le passé. Toute la Bible pointe vers Jésus. Et tu as besoin, j'ai besoin, d'être constamment plongé dans ce livre pour que la culture de Jésus devienne ma culture. Pour qu'on soit à table avec Jésus et qu'on soit en train de se demander « Mais toi, tu fais comme ça, Jésus ? Je ne savais pas. Moi, je veux aussi apprendre à faire comme ça. Comment tu tiens tes baguettes, là ?» Non, vous voyez, ça, c'est en Corée. Mais comment tu vis, Jésus ? Change-moi. Et ce processus-là, c'est le processus où, doucement, les pièces de puzzle de notre rébellion sont enlevées de la boîte. Et on voit de plus en plus clairement à quoi devait ressembler le puzzle complet, le chef-d'œuvre original d'une vie où on vit à 100% dans la volonté de Dieu, qui veut ton bonheur. C'est un des mensonges, une des pièces du puzzle étranger ou ennemi ou pécheur, de croire que Dieu ne veut pas ton bonheur. S'il a envoyé Jésus, c'est pour que tu évites la condamnation, que tu évites le jugement dernier en croyant en Jésus. Donc, chantons, purifiés, que ce soit une prière de confession, que nous sommes tous fondamentalement brisés. Et deuxièmement, prenons la ferme résolution d'entamer chaque jour le processus où on médite qui est Jésus, pour que Jésus soit en train de nous transformer. Parce que ce processus, c'est Jésus qui progressivement nous sauve de nous-mêmes. C'est nous qui sommes notre pire ennemi. Et il nous sauve de nous-mêmes, il nous change pour que Jésus soit ce que les gens voient quand ils regardent à nous.